Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire?
Ne croyons pas que ce sont celles et ceux qui, ces dernières décennies, ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions.
Je ne crois pas au modèle Amish.
How dare you?
On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Agissons, le magazine de la transition écologique, est de retour pour une saison 3. J'espère qu'on vous a manqué, parce que vous nous avez manqué, et on a plein de choses à vous dire et à vous faire découvrir. Laissez-moi d'abord vous présenter Chloé, en service civique pour chapeauter tous les journalistes bénévoles qui animeront cette émission jusqu'au mois de juin. Coucou Chloé.
Salut Manon, salut tout le monde. J'espère que vous êtes prêts pour cette première qui promet d'être décoiffante. Nouvelle saison, nouvelle équipe, mais mêmes ambitions. Vulgariser les enjeux de la transition écologique et vous partager des solutions conviviales dans le Grand Lille.
Et on vous le rappelle, Agissons, c'est le fruit d'un partenariat entre la MRES, la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, de l'Université Populaire et Permanente de la Jeunesse et RPL Radio, donc merci à eux.
Agissons saison 3, c'est une équipe de 15 bénévoles. Et oui, il y a du monde. Si vous voulez vous familiariser avec nos petites têtes, rendez-vous sur notre site ou sur nos réseaux sociaux.
Allez, on attaque.
C'est parti. On vous parle aujourd'hui de greenwashing. Greenwash ? Si cet anglicisme ne vous est pas familier, pas de panique, vous n'êtes pas les seuls. Et pourtant, vous allez voir qu'il est partout.
Sur les étalages des magasins, dans les publicités, dans les projets politiques, le greenwashing est sur tous les fronts.
Après avoir défini ensemble la notion de greenwashing, ou éco-blanchiment en français, Solène se penchera sur la question de l'abondance de labels, plus vert que vert, dans les supermarchés.
Et on a le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau ce matin une experte en la matière, Pauline Say, responsable communication de l'association Aprobio. Bienvenue sur le plateau.
Merci, bonjour.
Merci d'être avec nous, Pauline. On a hâte d'entendre vos réponses aux questions qu'on se pose. Nous verrons ensuite, dans le billet d'humeur de Magali, en quoi le greenwashing est également une affaire politique.
Eh oui, quand on vous disait qu'il était partout. Cécile nous parlera ensuite de l'exemple très concret du projet Lille Capitale Verte et Maxence finira par nous donner des solutions pour s'armer et lutter contre le greenwashing. Pour agir quoi?
Eh ben, quel programme?
Tu l'as dit. Chloé, accompagnée de Solène, tu es partie à la rencontre des habitants pour tâter le terrain, pour savoir un peu quel était leur niveau de connaissance sur le greenwashing.
Qu'est-ce que ça vous évoque le greenwashing?
C'est eux qui nous empoisonnent.
Environnement, économie d'énergie...
J'en ai aucune idée.
Manger local, trier ses déchets.
Ah, j'ai pas le temps, désolé.
Non, même pour du greenwashing.
Greenwashing.
Ah, le greenwashing.
C'est vendre des produits entre guillemets écologiques, avec tout un discours écologique, mais c'est pas forcément des produits qui ne sont vraiment.
Je sais pas, lessive
blanche.
Naturelle, quoi. Avec des produits naturels.
Ouais.
Sans utiliser les produits chimiques
écologiques, quoi.
Écologiques.
Greenwashing, c'est quand les marques reprennent un peu l'écologie, ouais.
Aucune idée. Greenwashing, un truc qui se lave et qui est vert.
C'est l'utilisation du prétexte de la protection de l'environnement pour vendre plus.
Je ne connais pas, mais je pense que ça a tout son sens.
Alors le greenwashing, c'est quand quand une marque utilise des arguments verts pour défendre du vert et que c'est pas du vert.
Voilà, donc parmi les réponses approximatives qui ont tout de même le mérite d'avoir fait preuve d'une certaine créativité, on trouve des définitions claires et précises de ce qu'est le greenwashing. Mais globalement, je dois dire qu'on a quand même été assez étonnés de voir à quel point ce terme était inconnu aux Lillois. Ça nous a confortés dans notre idée. Il faut qu'on fasse une émission sur le greenwashing. Et Manon, c'est pas toi qui as fait des études de marketing? Tu dois en connaître un paquet sur les techniques de greenwashing des entreprises.
Ouais, bien vu. En effet, j'ai étudié le marketing et j'ai même fait mon mémoire de fin d'études sur le greenwashing dans la publicité, tellement ça me terrifiait. Franchement, vous n'en avez pas marre, vous, d'entendre toutes ces publicités qui prennent des messages écologiques à tout bout de champ pour vous faire acheter n'importe quoi?
Oh que si.
Bon, nous, en tant que consommateurs et actrices aguerries, on est censé ne pas se laisser influencer par le greenwashing. Mais pour des personnes moins expertes en la matière, le risque de se laisser séduire par des produits aux promesses écologiques douteuses est plus grand. Et oui, car les industriels et les organisations n'ont pas hésité à surfer sur la tendance du développement durable et à le mettre en avant dans leur stratégie de communication. C'est ça, le greenwashing. Pour mieux comprendre le concept, j'ai sélectionné des passages de publicité qui illustrent bien les différentes techniques. Bon, du coup, désolé, mais vous allez encore entendre des pubs. Premièrement, il y a les pubs où abondent les mots relevant du champ lexical de l'écologie et les superlatifs. par exemple.
Chaque jour, vous montrez les preuves de votre amour. La nôtre, c'est de faire nos biscuits avec du blé local cultivé de manière plus durable et plus responsable.
Local, plus durable, plus responsable, alors que ça reste des biscuits industriels. Ensuite, il y a ces publicités qui vous citent des pourcentages douteux pour parler de la composition des produits ou des emballages pour vous faire croire que c'est plus respectueux de la planète.
Et découvrez Calcolic Plus, toute l'efficacité Cagon dans une nouvelle formule avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc les 2% restants, c'est quoi ? On sait pas. La suite.
C'est la première bouteille d'origine végétale. 20% d'origine végétale et toujours 100% recyclable. Elle est plus respectueuse de l'environnement.
20% d'origine végétale, 100% recyclable. Donc ça fait toujours 80% de pétrole. Et puis on sait que l'argument du recyclage, c'est pas le mieux. Au final, il y a toujours autant de plastique dans les océans. Après, j'ai identifié les publicités qui mêlent santé et écologie. Parce qu'on respecte son corps comme on respecte la planète après tout. Écoutez plutôt.
Notre peau, notre planète, doivent être traitées avec soin pour rester saines. Respectez votre peau et contribuez au respect de la planète.
Celle-ci, c'est pour un déodorant. Et pas un déodorant à la composition méga naturelle, hein, même si la pub peut vous faire croire le contraire. Enfin, c'est toujours mieux quand on peut s'identifier à d'autres individus. Surtout s'ils ont l'air d'être de parfaits écolos. Je vous fais écouter le début.
Voici Thomas. Il aime le yoga, les jus détox. Thomas se déplace en vélo et contribue à préserver la planète. Il aime tous les légumes. Céleri, pois gourmands, poireaux. Il est passé maître dans l'art de les cuisiner.
Alors, à votre avis, on veut vous vendre quoi avec ce Thomas qui adore les légumes ?
Des conserves, non, je crois. Je sais plus.
Un tapis de yoga.
Moi, je vais vous le dire.
Et comme Thomas est flexitarien, il adore aussi la viande. Il a compris qu'être flexitarien, c'est manger mieux, grâce à une viande de qualité, responsable et durable.
Bon, là, pas de jugement, car moi aussi, je pourrais me qualifier de flexitarienne. Mais bon, pas la peine d'en faire des caisses, surtout quand on sait que l'élevage intensif de bœuf est très polluant pour la planète. Allez, une petite dernière en chanson.
Oui, mon téléphone date, mais c'est pour la bonne cause. Ne pas consommer trop, c'est une règle que je m'impose. Moi, je veux penser écologie.
Alors, à votre avis, si elle veut penser écologie, qu'est-ce qu'elle va faire ?
Je ne sais plus.
Bon, allez, je dirais des cosmétiques naturels, elle voudrait faire ?
La réponse.
Et avoir du high-tech dernier cri.
Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques.
Ah bah d'accord.
Du high-tech dernier cri. Super l'écologie quand on sait que l'extraction des matières qui composent nos téléphones est une abomination écologique. Vous l'aurez compris, derrière ce coup de gueule sarcastique, j'ai voulu vous montrer l'absurdité de certaines publicités. Parce que le greenwashing, ça désigne les stratégies de communication qui essayent de valoriser des engagements environnementaux ou sociaux en dépit de l'absence d'action à la hauteur de cette communication. Si on en veut tellement aux annonceurs, c'est parce qu'ils nous vendent certains produits de leur gamme pour suivre les tendances, mais ils continuent de commercialiser d'autres produits néfastes pour la planète et la biodiversité.
Aïe, 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 qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer pour nous faire acheter n'importe quoi ?
Des labels peut-être ? C'est ce dont va justement nous parler Solène.
Alors, je ne sais pas vous, mais quand je rentre dans le supermarché, je me demande toujours mais comment je vais m'y retrouver face à l'abondance des labels environnementaux ? Tellement de verdure avec des labels plus écologiques les uns que les autres que tout ça crée une vraie confusion lorsqu'on doit choisir un produit. De quoi en décourager plus d'un qui souhaiterait changer son mode de consommation. Je vous propose donc, dans cette chronique, de décrypter les astuces adoptées par les entreprises pour nous faire oublier ce qui se cache réellement derrière nos produits. Première astuce, plutôt astucieuse, celle de verdir l'emballage. Et oui, changez la couleur de votre produit avec des couleurs associées au développement durable comme le bleu ou le vert, nous feront croire qu'on achèterait un produit plus écolo. Pas folle la guêpe ! Les multinationales utilisent cette technique accompagnée de quelques messages ciblés avec un arrière-plan naturel et hop, le tour est joué ou presque. Alors, au risque de vous décourager, votre bouteille Volvic, qui se dit 20% d'origine naturelle, mettra autant de temps à se biodégrader qu'une bouteille lambda. Alors on se méfie du packaging et on garde son esprit critique. La deuxième stratégie pour verdir son image est celle qui consiste à inventer des labels. Pour vendre plus, les multinationales ont eu la bonne idée de faire apparaître des labels inventés de toutes pièces. Beaucoup d'études montrent que la présence d'un label écologique a un impact positif sur la perception du produit. Vu que les labels agissent comme un gage de crédibilité auprès des consommateurs, un bon nombre de marques créent des labels autoproduits. Alors maintenant vous savez ça, on va mettre ensemble les points sur les i et les barres au t quant à un produit un peu trop greenwashing. l'huile de palme dite durable n'existe pas. Désolée de vous décevoir, mais oui, votre tartine de Nutella provoque des déforestations inévitables et de la monoculture intensive en Indonésie et en Malaisie. Même si le label Roundtable and Sustainable Palm Oil a été créé en 2004, il n'évite ni les feux de forêt provoqués par les multinationales, ni les incendies. Par la même occasion, on retient que WWF, qui félicite Nutella pour l'utilisation de l'huile de palme faussement durable, c'est un point en moins pour notre cher panda. WWF se rend complice d'une certification qui pousse au greenwashing, c'est non. Donc on laisse tranquille les petits orang-outans et on ne se laisse pas attendrir par les labels greenwashés. Pour résumer, on verdit l'emballage, on invente des labels auto-attribués pour embrouiller le consommateur. Bienvenue au royaume du greenwashing, où qui se veut vert le devient en un coup de pinceau. Sinon, niveau solution, rien ne vous empêche d'aller faire un tour sur le site de l'ADEME qui répertorie près de 100 labels fiables. On retrouve celui de l'agriculture écologique, l'écolabel européen, l'écolabel nordique, biocohérence, Déméter et bien d'autres encore. Allez, on garde espoir, même si tout n'est pas rose. Enfin vert.
Eh ben, on en apprend des vertes et des pas mûres. Merci Solène pour cette chronique. J'avoue que parmi tous ces labels, c'est parfois difficile de s'y retrouver.
Mmh. Et c'est pour ça que Pauline est avec nous, pour nous éclairer sur le sujet. Julie, je te laisse présenter notre invitée.
Merci Manon. Bonjour Pauline. Vous êtes responsable communication chez Aprobio, une association qui crée un réseau des acteurs du bio dans notre région. Pouvez-vous nous parler des missions d'Aprobio ?
Donc Aprobio, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1994, donc ça fait bientôt 25 ans, qu'on anime ce fameux réseau des acteurs bio des Hauts-de-France, autour de trois axes principaux. On essaye d'aider les acteurs de la restauration collective, donc pour vulgariser tout ce qui touche aux cantines, aux repas dans les EHPAD, aux prisons, aux hôpitaux, tout ce que vous voulez, tant que c'est collectif, à atteindre 20% de bio. Comme ça a été décidé dans le dernier Grenelle. Ensuite, on a un axe sur la grande communication au public, donc qui vise plutôt à informer et sensibiliser les consommateurs et futurs consommateurs bio en devenir. Et enfin, on développe les filières pour relocaliser et dynamiser des filières pour que, au fil du temps, les filières deviennent filières bio plus locales.
Donc on l'a bien compris, vous êtes le réseau des acteurs du bio dans notre région et on voudrait savoir en fait qu'est-ce que le bio, en quoi ça correspond à un mode de vie plus durable, en quoi ça répond à une manière écologique de faire de l'agriculture.
Alors, pour faire écho à ce qui a été dit au début, le bio, c'est l'inverse du greenwashing, totalement. Pourquoi ? Tout simplement parce que le bio, c'est un mode de production qui vise à respecter l'environnement, ses habitants, qui respecte les valeurs essentielles du respect de la terre, donc qui vise la biodiversité par exemple, qui respecte l'air, la terre, les sols, et tout ça. Et pourquoi ça n'est pas du greenwashing ? C'est justement parce que tout est absolument écrit dans des cahiers des charges, lesquels, s'ils ne sont pas respectés, ne permettront pas à un professionnel qui se dit bio de profiter du label bio apposé sur ses produits.
Très bien, donc on a compris, le bio répond en effet à la problématique du greenwashing. En quoi les collectivités territoriales, comme les municipalités, peuvent être acteurs du changement vers un mode de consommation plus sain, plus éthique et surtout plus écologique ?
Alors, nous, dans nos différents publics et différents intermédiaires, donc on a, comme vous venez de le dire, des territoires. Donc, ces territoires peuvent être acteurs de différentes façons. Donc, on a l'échelle, par exemple, territoires, parcs naturels régionaux qui vont pouvoir participer au développement des terres agricoles, donc avec d'autres partenaires développant des soutiens économiques, par exemple, pour permettre des conversions ou tout simplement des installations de nouveaux producteurs bio. Ensuite, on a à l'échelle communale, tout à l'heure je parlais de restauration collective, qui vont pouvoir par exemple pousser du développement de produits bio dans les menus à la cantine, qui vont pouvoir sur leur commune développer des ventes directes de produits bio, donc par exemple des paniers bio, des épiceries bio ou alors des marchés de producteurs. Ensuite, on a encore une autre possibilité pour les communes, ça va être de travailler des concertations avec les consommateurs. Donc, par exemple, avec des habitants, faire des ateliers cuisine ou alors dessiner des bas, par exemple, pour que chacun puisse relever son point de vue et ensemble construire quelque chose de commun autour de l'agriculture biologique. Et enfin, on a aussi la possibilité pour les citoyens, par exemple, de se regrouper. Quand je dis citoyens, ça peut être aussi parents d'élèves, pour faire un peu écho à la restauration collective, qui vont pouvoir se regrouper pour justement aller faire des demandes au niveau des territoires, des communes, et devenir coactrice ou coacteur de ces territoires et communes.
Donc c'est non seulement des actions directes, mais aussi des actions plus de communication, développer en fait tout simplement le bio autour de sa commune et de ses habitants.
Oui, alors premièrement, c'est tout d'abord d'être engagé politiquement dans une démarche que nous, en tout cas, on souhaite complètement profonde. Et en 2020, on a développé à l'échelle régionale un label. Donc un label qui s'appelle Territoire Bio Engagé, permet justement aux communes qui sont donc politiquement vraiment engagées sur la bio et qui veulent le faire savoir et le faire valoir, qui permet aux communes ayant atteint un certain seuil de produits bio en restauration collective ou de territoire bio sur leur commune, de demander une label donc auprès de notre association, auprès d'Aprobio, laquelle étudiera le dossier et acceptera de donner le label selon, encore une fois, un cahier des charges bien précis.
C'est un bel engagement et ça permettra justement aux communes de ne pas être greenwashées pour cette fois. En effet, du coup, vous accompagnez vers la labellisation et vous délivrez donc ce label, mais vous accompagnez aussi vers la labellisation des fournisseurs ou des agriculteurs, des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces labels?
Alors, nous, on n'est pas, si vous voulez, nous, on ne va pas avoir un professionnel qui va nous appeler en disant « Moi, je vends un produit bio ou une gamme bio, je voudrais le label ». Nous, ce qu'on va lui apporter, c'est dans un certain niveau d'avancée de projet ou pas, parce qu'on aide aussi les futurs acteurs bio à donc, ce que nous on appelle porteurs de projet, soit à développer du bio nouvellement ou soit à augmenter, on va dire, leurs produits bio. On va les aider à répondre à la charte. Après, les personnes qui vont pouvoir leur apposer le label, c'est ce qu'on appelle des organismes certificateurs qui, eux, vont être contactés par le professionnel, qui va ensuite devoir être visité par un organisme certificateur qui va vérifier l'exploitation ou le site de production, quel que soit le format du professionnel, va vérifier si, selon les relevés, ça correspond aux exigences des labels, et ensuite, le label qui sera désiré sera ou non validé. Donc nous, on est vraiment dans la partie, on aide à développer le produit bio, on aide à développer la gamme, le professionnel à mieux comprendre comment marche le bio local, le bio dans les Hauts-de-France, à quel logo il peut prétendre. On a, par exemple, on va avoir le label Eurofeuille qui remplace le label AB maintenant. On va avoir Déméter, comme on l'a dit tout à l'heure, Nature et Progrès, etc., etc., pour l'alimentation. Après, pour les produits cosmétiques, par exemple, ça va être d'autres labels avec d'autres cahiers des charges.
Mmh. On voit plus de 6% en 2019 des produits de consommation bio en France, plus 6% d'achat de ces produits de consommation. Par contre, il y a une régression dans les Hauts-de-France des magasins spécialisés. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une problématique particulière dans les Hauts-de-France ou il y a un manque d'accompagnement? Je ne sais pas.
Alors, on a au niveau production et transformation et distribution, on regroupe un peu les deux, le marché qui est en plein développement. Donc la production, pour vous donner quelques chiffres, entre 2018 et 2019, on a fait tous les ans, on fait un ORAB, donc un, comment je vais dire ça, un observatoire régional de l'agriculture biologique, pardon, qui identifie entre 2018 et 2019 une augmentation de plus de 18% des terres en production bio. Au niveau de la transformation et distribution, on a une évolution de plus de 361 entre 2018 et 2019. Néanmoins, effectivement, on a identifié qu'il y avait une petite perte de points distributeurs spécialisés. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des distributeurs 100% bio.
Est-ce que ce ne serait pas rattrapé par les grandes marques comme, je cite, Carrefour, Auchan, qui commencent à aller vers le marché du bio et que, du coup, récupèrent des parts de marché, par exemple?
Très certainement. Après, voilà, la difficulté, c'est qu'on a aussi quelquefois des problématiques, et justement, ça fait partie de nos missions au quotidien, c'est que la demande explose et que l'offre n'est pas toujours au rendez-vous et que bah, effectivement là où j'ai n'importe quoi, il y a 10 ans on avait des magasins spécialisés avec des professionnels qui vendaient du bio à des gens qui mangent bio, maintenant on a des professionnels pas du tout spécialisés dans le bio qui vendent quelques produits bio mais qui au passage récupèrent des parts de marché sur les acheteurs qui à la base ne sont pas bio.
Absolument.
Mais qui vont trouver peut-être des produits spécifiques dans les gammes bio qu'on ne trouve pas en ce que nous on appelle conventionnel. Et forcément, bah après, ils vont, comme on dit, hein, les grands mangent les petits. Au bout d'un moment, c'est ça qui est compliqué. Et nous, c'est ce qu'on vise à, justement, à aider les
plus petits,
entre guillemets, les 100% bio, à vraiment bien se développer parce qu'ils ont des démarches bio, mais bien au-delà.
Au-delà, oui, dans la RSE, dans la responsabilité sociale de l'entreprise.
Même encore au-delà, c'est-à-dire que, par exemple, dans les magasins spécialisés, là où, par exemple, dans une grande chaîne, vous allez trouver des clémentines bio, mais qui viennent du Maroc, dans un magasin spécialisé bio, vous allez trouver des clémentines bio qui viennent de 2 km.
Donc, on l'a compris, mieux vaut se pencher vers les magasins 100% spécialisés bio que les grandes distribution habituelle.
Si on veut faire valoir davantage de valeur, oui.
Donc on continue comme ça et on a bien compris que le bio pouvait être une réponse au greenwashing, alors n'hésitez plus et puis consommez bio. Merci Pauline.
Merci Julie.
Merci les filles pour ces précisions. Et puis on marque une petite pause musicale avec Trio et leur titre qui aujourd'hui prend tout son sens. On veut du green
On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green, 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 washing.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques,
des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques,
des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert,
mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, 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 washing.
Vous êtes sur Agissons, le magazine de la transition écologique, dans une émission consacrée au greenwashing. On vous a beaucoup parlé de consommation, mais sachez que le greenwashing s'immisce aussi dans d'autres domaines. Et c'est Magali qui nous en parle.
Oui, à ce stade de l'émission, vous l'avez compris, on nous ment. Enfin, on s'arrange avec la réalité, quoi.
Et malheureusement, même si la pratique est commune en cosmétique, le concept de greenwashing dépasse de loin les frontières de nos shampoings et de nos magasins. Mais la recette reste la même, quel que soit le domaine. Ce serait quand même dommage de réinventer un concept qui nous dupe si bien. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Prenons comme exemple un des grands projets inutiles et imposés de la région, GPII pour les intimes. Tropicalia. Alors non, il ne s'agit pas du tout d'une marque de jus d'orange du Brésil, bio ou pas d'ailleurs. Non, je ne parle pas de ça. Tropicalia, c'est le projet de serre tropicale, la plus grande du monde, qui veut s'implanter à Renduflier sur la côte d'Opale. Oui, c'est ça. Prenons des espèces de l'autre bout du monde pour les amener à Renduflier. Attention, petit reptile, je crois que vous allez vous faire arnaquer. Bon, revenons à nos moutons. Les ingrédients pour faire passer ce projet, attention, vous n'êtes pas prêts, pourtant on part sur un basique, un colibri dans le logo. Mais oui, oui, ils ont osé. Alors il faut quand même savoir que le colibri a une forte symbolique chez les écolos. Il illustre de nombreux mouvements et associations environnementales. Cela provient notamment d'une légende amérindienne, souvent contée par Pierre Rabhi. Un jour, un orage déclencha un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans un ruisseau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Le colibri, c'est donc cette pulsion de vie, ces actions qui vont être dictées par notre conscience et nos valeurs. Et donc, Tropicalia et la bétonisation qui va avec, eh ben, c'est la goutte d'eau de Cédric Guérin, à l'origine du projet, contre le réchauffement climatique. Logique. Bon, ce qui est amusant, c'est que le colibri est défini comme un oiseau qui peut faire du surplace, comme Tropicalia actuellement, ou au contraire effectuer d'impressionnantes piquets. Et c'est pour éviter cette prise de vitesse incontrôlable qu'une trentaine d'associations s'est réunie pour s'opposer à ce qu'ils définissent comme un safari sous cloche. Et justement, pour répondre à ces détracteurs, Tropicalia sort un autre ingrédient du greenwashing, la transparence, censée montrer que « Oh non, 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 on ne cache rien ». Une foire aux questions existe sur leur site pour contrer chaque argument que leur opposaient les associations militantes. Bon, pas bête. À la provenance des espèces, Tropicalia répond « La totalité des espèces animales et végétales sont issues d'élevages européens », pour finalement écrire quelques lignes plus tard. « Les papillons proviennent de différentes fermes d'élevage dans le monde ». Il se justifie ainsi « En se consacrant à l'élevage des chenilles, ces fermes participent à la sauvegarde de la forêt équatoriale en empêchant la déforestation. » En gros, plutôt que de brûler la forêt, ils élèvent des chenilles. Oui, mais Jean-Michel Gédrazac, un des porte-parole du collectif Non à Tropicalia, dénonce les 1000 chrysalides qui arriveront chaque semaine par avion d'Afrique ou d'Amérique du Sud pour renouveler le stock des 8000 éphémères papillons. Et oui, pas si simple le greenwashing. Hein. Des arguments s'opposent quand l'un parle des transports en commun à proximité, l'autre parle du trafic routier engendré par les 500 000 touristes annuels attendus. Vu comme ça et au train où les choses vont, cette faune et cette flore qui s'épanouissent sous 50 degrés n'auront plus à être prisonnières d'une serre de plastique pour se sentir à l'aise dans nos contrées. Quand l'économie et la politique s'en mêlent, le cocktail peut avoir un goût très artificiel. Car oui, si vous pensiez que le greenwashing n'atteignait pas la sphère sacrée de la politique, vous vous fourrez complètement le doigt dans l'œil. Dans l'œil. Oui, car c'est le même principe. Vous voulez des actions concrètes et majeures en termes d'environnement, mais tenez, on vous propose de piocher des gens et de les réunir pour les faire réfléchir à des propositions. Parce que nous, sincèrement, on n'en est pas capable. Et bon, visiblement, vous avez vachement envie de vous y coller. Alors allez-y, faites notre boulot. Les politiques ont appelé ça la Convention citoyenne pour le climat. Le problème, c'est que ça a fonctionné. Des propositions claires, un plan d'action détaillé. Alors du coup, on fait quoi? Eh ben rien. La réponse du gouvernement pourrait être « Mais merci, on espère que cet atelier co-créatif vous aura bien amusé. À bientôt. Rentrez chez vous et attention sur la route. Hein. Ce serait dommage de se faire écraser par une voiture électrique un peu trop silencieuse.
» Merci Magali. Incroyable ce projet Tropicalia. On se demande bien ce qu'il aurait passé par la tête. Et Cécile, à l'échelle lilloise, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien, à l'échelle lilloise, il y a eu récemment la candidature de la ville de Lille au prix de la capitale verte européenne, qui a fait couler pas mal d'encre. Alors, le prix de la capitale verte européenne, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un prix qui récompense chaque année une ville européenne qui prend des engagements forts et concrets en faveur de l'environnement et du développement durable. Donc Lille a monté un dossier de candidature pour l'édition 2021 et Lille a été retenue parmi les finalistes, mais Lille n'a pas reçu le prix, non non. Jusque-là, on pourrait se dire que c'était une belle initiative, mais J'ai lu, entre autres, un rapport qu'un groupe d'associations a adressé en avril 2019 au jury qui décerne le prix. Et ce rapport, eh bien, démonte, il n'y a pas d'autre mot, la candidature lilloise point par point. Chiffres et sources à l'appui, les arguments du dossier sont contredits, que ce soit sur la qualité de l'air, la biodiversité, les transports, le manque crucial d'espaces verts par rapport aux autres villes françaises. Et d'ailleurs, en parlant d'espace vert, la ville de Lille comptabilise comme espace de nature significatif les parcs et jardins, évidemment, mais aussi les cimetières, les talus autoroutiers, les ronds-points. Je vous laisse décider par vous-même si vous trouvez qu'un rond-point, c'est un espace de nature significatif, parce qu'après tout, ça se discute. Mais pour résumer, quand Lille veut prouver qu'elle a les moyens d'être la capitale verte de l'année, qui est censée être un modèle pour les villes européennes, on lui rappelle gentiment les éléments un peu moins glorieux qu'elle n'a pas forcément précisé. Un exemple symbolique, un gros point de tension pour les dernières élections municipales lilloises, la Friche Saint-Sauveur. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Friche Saint-Sauveur et le parc du Belvédère qui est juste à côté forment un espace vert au sud de Lille qui est un peu géré, un peu à l'abandon. Et en gros, nous avons d'un côté la ville de Lille qui veut faire de la Friche un éco-quartier avec petit plus une piscine olympique, fosse de plongée incluse, à la place du parc du Belvédère. Et en face de ça, on a des riverains, des associations qui se sont mobilisées pour préserver ce petit bout de nature et qui ont un peu remis en question ce projet d'éco-quartier qu'on retrouve mis en avant dans la candidature de Lille. Bon, si les talus autoroutiers sont des espaces de nature significatifs, les friches aussi, hein, et elles sont même qualifiées de réservoirs de biodiversité dans le dossier de candidature. Dans ce cas-là, s'interroge-t-on, pourquoi urbaniser Saint-Sauveur quand Lille manque en plus d'espaces verts ? Pourquoi aussi avoir rasé une grande partie de la Friche en 2018 ? Et surtout, pourquoi, dans une partie de la candidature, présenter la Friche comme des lieux stériles à urbaniser, alors qu'il y a quelques pas, c'était des réservoirs de biodiversité ? Alors, petite chose amusante, ce rapport que j'ai cité ne mentionne aucune fois le mot « greenwashing » ou « éco-blanchiment ». D'autres articles sont un peu plus explicites, mais voilà, la vitrine verte lilloise s'est fait méticuleusement briser. Du coup, ce que j'ai retenu de ce prix de la capitale verte, surtout en tant qu'actuellement demandeuse d'emploi, c'est très simple, quand vous faites une candidature, évitez de trop croire en l'adage « plus c'est gros, plus ça passe » et évitez le greenwashing aussi.
Merci Cécile. En entendant tout ça, en fait, j'ai qu'une question à vous poser. C'est foutu ou agissons ?
Eh bien, agissons plus que jamais. Je vais vous résumer comment. Premièrement, on s'informe. Je commencerai par une citation de Sun Tzu dans son célèbre ouvrage « L'art de la guerre ». Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Oui, c'est un peu belliqueux, mais bon, l'économie c'est une guerre à base de stratégie pour toucher des cibles. Et les cibles, c'est nous. Alors on s'intéresse aux campagnes de pub, aux projets de construction, aux promesses, on se tient au courant des différents labels, plus ou moins officiels, c'est-à-dire leur origine, leur charte et donc ce qu'elles garantissent. On s'interroge et on garde un aspect critique sur tout, ou le plus de choses possible. Les images, les couleurs, les termes et leur utilité, ainsi que leur utilisation. On dialogue également quand on le peut avec les vendeurs, avec les producteurs. On s'ouvre à d'autres médias, internationaux, nationaux et locaux, ou alors spécialisés. Vous avez Reporter, vous avez Agissons bien sûr, qui est mondialement connu, et Socialter. Deuxièmement, on dénonce et donc on boycotte. Un sou est un sou, comme disait ma grand-mère. Alors si vous jugez que cette entreprise n'est bénéfique ni pour vous ni pour la planète, c'est ciao, on travaille son jeu de jambes et on esquive. Alors oui, le changement c'est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça pourra interloquer vos amis, votre famille, vos camarades de classe, votre chat, votre chien, vos voisins, les passants, les Illuminati. Bon, ça devient un peu long, je pense. Mais vous avez compris. D'autant plus que ces changements sont des occasions idéales pour ouvrir le débat et dialoguer pour tenter de convaincre. Et troisièmement, on se tourne vers du local, des labels sûrs et fiables, locaux, comme Saveur en Or, Végétal Local, l'agriculture biologique, Déméter, etc., etc. Je vous renvoie à notre seconde émission de la première saison. Et il y a également moult autres solutions. Alors déjà, la principale, c'est de s'abonner, de partager nos émissions, nous suivre sur les réseaux, hein. Voilà, on est un peu forcé. On agit déjà à son échelle et on peut rejoindre des mouvements et ou associations. Vous y trouverez forcément votre compte. Je vous renvoie également à notre première saison et à la quatrième émission. Et on vous met aussi le répertoire des associations membres de la MRES sur nos réseaux et notre site. Parce que bon, déjà, agir à son niveau et rester cohérent sur le long terme, c'est un grand combat et une grande action. Même si on peut se dire que c'est au final qu'une seule cause, mais il n'y a pas de petite cause comme on dit. Mais vous savez, je crois pas qu'il n'y ait de bonne ou de mauvaise solution. Agir, c'est d'abord des rencontres, des gens qui vous tendent la main à un moment où vous êtes seul. Seul face à une campagne, une marque, un produit. Ce sont ces hasards, ces rencontres qui forgent votre destinée de citoyen éclairé. Ainsi, vous aurez le goût de la chose bien faite, le beau geste. Vous pourrez dire merci à la vie, n'être qu'amour et vous mettre au service de la communauté et de la planète. C'est sur ces bons conseils, cette référence cinématographique que je vous rends l'antenne.
Super Maxence, merci pour cette petite touche philosophique sur la fin. Et puis tu nous as bien fait rire tout du long de ta chronique. Alors voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous partager. Vous avez maintenant les cartes en main pour détecter le greenwashing et agir en conséquence. Pour plus d'infos sur les ressources qui nous ont aidés à élaborer cette émission, rendez-vous sur notre site agissons.ovh ou sur celui d'RPL Radio. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts de la première saison jusqu'à aujourd'hui.
Merci d'avoir écouté Agissons, prochaine émission le 26 février. Pour connaître le prochain thème et suivre nos actus, abonnez-vous à agissons-rpl radio sur Facebook ou agissons.rpl sur Instagram.
Et on se quitte en musique avec un titre choisi par notre invité. Merci Pauline d'avoir été présente et merci à l'équipe. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.
Trust everyone that you meet. I'm so lucky.